ils sont pas bons. C'est incroyable.
Bah.
Ça marche.
Il n'y en a pas des neufs. Pas trouvé.
Quoi? Pas trouvé des neufs.
Ah, c'est pas des, c'est pas un nouveau. C'est pas une... Tu n'as pas changé de batterie, en fait.
Si, mais elle n'est pas très pleine. Elle a déjà été utilisée.
Bon. Hein, c'est bizarre. Okay.
Elles n'ont pas été jetées. C'est ça qui s'est passé.
Ah, ouais, ouais. Bon, en tout cas, bonsoir. On fait avec.
Pour l'instant, ça marche.
Quoi?
Pour l'instant, ça marche.
On fait avec. On fait avec et en même temps, c'est intéressant de réfléchir à quelle est notre intention avec ça. Et si notre intention est de pouvoir enregistrer et partager ça avec d'autres, on fait ce qu'il faut pour. Mais je ne sais pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une... seule pile. Oui, ou non, c'est juste que c'est pas ouvert d'un côté.
Oui, j'ai pas remis le cache.
Ah, ok, d'accord. J'avais une image très forte que j'ai. Qui m'est revenue parce que quelqu'un dont vous m'entendez parler régulièrement, bien sûr, non, mais. Un grand maître dans notre lignage, il meurt dimanche, et Bernie Glassman, et une image qu'il utilisait parfois, c'était que la méditation était comme que notre esprit, notre mind, notre tête, quoi, était un peu comme un lac où il y avait des vagues et des ripples, comme on dit ça en français,
des vaguelettes.
Oui, comme si quand
des... on... ondulations.
Oui, peut-être ondulations.
Des remous.
Oui, remous, etc. Des vagues, mais aussi des choses plus petites. Et que si c'est la nuit, il y a la lune qui est reflétée dans le lac. On voit quand même, même s'il y a des vagues et des vaguelettes et des ondulations, on voit quand même le reflet. Mais pour vraiment le voir clairement, le plus clair, c'est quand les vaguelettes et les vagues se sont arrêtées et c'est tranquille, la surface du lac. Et que la méditation qu'on fait, c'est comme ça. C'est que d'habitude, on est tout secoué, ça bouge, les pensées haut et bas, les vagues, les vaguelettes, tout un tas de choses qui se passent. Et avec la méditation, c'est comme si, au fur et à mesure qu'on pratique et qu'on s'établit dans cette assise, c'est comme si les vagues se calment et on voit clairement le reflet. Alors, il continue cette image pour nous amener à ce que c'est cette pratique. C'est pas uniquement parce qu'on veut voir la lune claire, le reflet de la lune clairement dans le lac, mais qu'une fois qu'on voit les choses clairement, on peut agir selon les circonstances, parce qu'on les voit. Et on voit la nature des choses que souvent on voit que les différences. On va se focaliser sur les différences, sur moi, toi, la lune, le lac, l'eau, la terre, la nuit, le jour, toutes les différences, plutôt que de voir ce qu'on peut voir si c'est calmé. L'unité, ce qu'on partage plutôt que ce qui nous sépare. Et toute cette pratique zen, entre guillemets, les formes, les méditations, tout ça. Et l'idée, c'est de nous amener à pouvoir avoir cet aperçu de l'unité, ce qu'on appelle en anglais « oneness », qui n'est pas quelque chose de... C'est la lune, le reflet de la lune était toujours là, c'est juste qu'on ne le voyait pas. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est toujours là, cette unité. Mais comme notre attention est accaparée par d'autres choses, on ne voit pas. Et donc on fait cette pratique, cette méditation, pour pouvoir que notre attention s'éclaircit et on peut expérimenter cette unité. Et comme j'ai dit, quand on a cette expérience de cette unité, on va agir autrement dans le monde. On va avoir une autre relation avec des autres. On va avoir une autre relation avec des objets. On va avoir une autre relation avec les arbres, la terre. On va avoir une autre relation avec notre travail, nos familles, etc. Et on voit aujourd'hui dans notre monde, c'est devenu presque, si ce n'était pas tellement triste et tragique, les gags, comme on dit avec ça, que tout ce qu'on voit qui fait surface et qui, les événements qui nous entourent, sont dus à cette manque d'attention à l'unité. C'est plutôt, ça vient du fait que notre attention, je dis nous, en parlant de l'humanité, est concentrée sur les différences et la séparation et les clivages. Et on voit les résultats de ça. On voit les guerres, la violence, la négligence, les gens qui ont faim, d'autres qui ont beaucoup de choses, les gens qui sont obèses, les gens qui ont des maladies, tout ce qu'on peut imaginer, ce qui nous fait souffrir dans ce monde, vient de cette manque d'attention, pour dire ça simplement, de cette concentration, focalisation sur les différences et les séparations, plutôt que l'expérience de l'unité. Ça vient d'un monde où on exclut plutôt que d'inclure. Récemment, là, la semaine dernière, quand j'étais au Portugal, à une retraite, dans un... Comment on dit ça? Dans un discours comme ça, situation comme ça, quelqu'un qui était là pour la première fois posait des questions et partageait les observations. Je demande souvent, je dis, est-ce que vous avez des questions, est-ce que des commentaires, etc. Quelqu'un disait des choses. Et à un moment, et donc on discutait de ça, etc. Et à un moment, elle disait, pardon, peut-être que je ne devrais pas dire ça, ces choses. Peut-être que je ne devrais pas, peut-être que ça dérange, etc. Je dis, mais pas du tout. Je dis, c'est une pratique d'inclusion plutôt que d'exclusion. Tout ce que vous dites est bienvenu. J'accueille tout ce qui est dit, tout ce qui est partagé. Et cette femme était très étonnée par ça. Et à la fin de la semaine, dans le cercle de parole, quand on parlait, elle et quelqu'un d'autre, est-ce que c'était elle? Non, c'était quelqu'un d'autre, qui était là aussi pour la première fois, qui disait, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il s'agit d'inclure plutôt que d'exclure. Elle parlait dans un contexte d'une retraite de méditation ou une pratique spirituelle. Parce qu'elle avait d'autres pratiques spirituelles. Et se m'étonne un peu que c'est la première fois qu'elle l'a entendu, mais c'est pas grave. Hein. Ce qui est important, c'est que c'est ça qu'elle a entendu. Que ce soit la première fois ou non, qu'elle a entendu ça. Et j'étais contente qu'elle ait entendu ça. Parce que c'est vrai que dans notre monde, on entend plutôt le contraire. On entend plutôt l'exclusion. Ces gens-là peuvent rentrer, mais pas ces gens-là. Ces gens-là, on a le droit de faire ceci, mais ces gens-là, non. Et ça peut être racial, ethnique, ça peut être homme-femme, ça peut être... selon les pays, toutes les différences et les catégories qu'on peut créer, on utilise pour exclure. Et alors, cette personne, Bernie Glassman, son maître, tout son enseignement, tout son travail était justement pour amener des gens à inclure, inclure, encore plus, encore plus, encore plus. Et de rester dans cet esprit, on parlait de ça tout à l'heure, du débutant. C'est-à-dire de ne pas savoir. Et quand on ne sait pas, tout est nouveau. Et tout est possible. C'est pas... Et si, dans cet esprit qu'il essayait de cultiver, c'était de lâcher nos attachements, nos opinions, nos positions, tout ce qui nous amène à l'exclusion plutôt que l'inclusion. Alors, il disait que lui, il avait été formé dans un contexte de pratique monastique. Son maître à lui était un maître japonais qui est venu aux États-Unis et qui avait créé un centre aux États-Unis. Il a ordonné les moines et des gens vivaient là. Bon, lui, il y en avait qui avaient des familles et des travaux, etc. Mais c'était monastique comme pratique. Et très rigoureux, très beaucoup de rituels, très exigeant, très formel, etc. Et donc il reconnaissait, il avait beaucoup d'appréciation pour ça. Mais une fois qu'il avait fait tout ça pendant des années, et lui-même il est devenu maître, il est parti, il a choisi de faire d'autres choses. Mais les questions restaient. Il voyait ce qui était valable dans cette pratique monastique, c'était que toute cette pratique était faite pour cultiver justement cette expérience d'unité, de nous amener notre attention vers ça, plutôt que vers la diversité. Les gens, ils étaient tous habillés de la même façon, ils avaient tous les crânes rasés, ils mangeaient tous de la même façon, tout était fait pour éliminer les différences. Dans le contexte rituel, dans le contexte de la pratique. Alors, sa question était, jusqu'à la fin de sa vie, hein, j'imagine, jusqu'au dimanche matin quand il était mort, comment faire ? Quelle pratique, quelle situation, quelles actions on peut amener pour que les gens, on peut utiliser ou introduire, pour amener des gens à cette expérience d'unité. Si ce n'est pas ce modèle monastique, parce qu'il trouvait que ce n'était pas valable dans notre société actuelle, quels outils il y avait pour ça? Et il a cherché, il a creusé pendant 40 ans ça. Parmi les choses qu'il a trouvées, c'était ce qu'ils appelaient les plongeons. C'est comme ça que tu as traduit ? Les plonges ?
Mmh. Oui, je crois.
Ouais, les plongeons.
Plongeons dans l'inconnu. Ouais.
Joe a traduit deux de ses livres en français. C'était de nous mettre dans des situations extrêmes. Retraite à Auschwitz. C'est là où je l'ai rencontré, Bernie. Situation extrême, quand même. S'asseoir pendant 5 jours sur les rails à Birkenau où les trains arrivaient et les gens étaient sélectionnés, divisés, jugés. Ceux qui étaient jugés pas bien, ils étaient tués immédiatement. Ceux qui étaient jugés valables pour travailler ou pour d'autres raisons, ils étaient gardés jusqu'à ce qu'ils étaient plus utiles et ils étaient tués aussi. Pendant 5 jours, on a fait notre méditation là, sur cette sur-là. On a dormi pas dans mes baraques, bien qu'il y avait des gens qui ont choisi de rester parfois la nuit dans les baraques. Mais sur l'autre, il y a 2 camps, Auschwitz et Birkenau. Sur le camp d'Auschwitz, il y a des structures pour les études, etc., où il y a des facilités pour dormir, manger, etc. Et donc on restait quand même dans le camp, mais dans des conditions luxueuses par rapport à ce que les gens qui étaient là avaient. Et on n'avait pas du tout la prétention de vivre ce qu'eux, ils ont vécu. Mais on était là. Et on essayait, ils nous mettaient, ils nous faisaient plonger dans cet univers. Et donc on a visité les camps, on a visité les murs d'exécution. On a visité les ruines des fourneaux. On était là pendant 5 jours. Et c'était confessionnel. Mm-hmm. Donc il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des bouddhistes. Il y avait différents, bon, il y avait des gens zen comme nous, mais il y avait d'autres écoles bouddhistes qui étaient représentées. Il y avait des Allemands, il y avait des Polonais, il y avait des Israéliens, les Américains, les Français, il y avait je ne sais pas combien de nationalités. Il y avait des gens qui étaient les petits-enfants des gens qui ont péri là, qui étaient morts, ou d'autres qui étaient des petits-enfants des gens qui ont fui. Il y avait des petits-enfants des soldats allemands, des gens, des Polonais qui, dans la famille, ont vécu dans le coin. Il y avait tout ce qui était imaginable. Et c'était en plongée dedans. Alors, il a aussi fait des plongeons dans la rue, où pendant 5 jours, les gens vivent dans la rue comme les SDF. Que ce soit à New York, à Paris, à Bruxelles, Helsinki, on avait fait, je crois qu'ils ont fait Rome, aux États-Unis, dans les différentes villes, bref. Où on a le droit de ne rien amener. Je crois qu'on avait le droit d'amener un billet de métro ou un truc comme ça. Et on restait ensemble, les gens restaient ensemble, et ils allaient dans les centres d'accueil pour manger, ils mendiaient dans la rue, ils étaient censés être habillés dans les... pas dans les habits propres. Ils faisaient de la méditation sur les bancs publics, ils dormaient dans la rue, dans les gares, dans les différents endroits, pendant 5 jours. Il a fait à Rwanda, en Israël, dans le Dakota du Sud, avec des Indiens, Amérindiens. Il y en avait un en Bosnie, à Sarajevo. Et récemment, il y en avait un en Finlande, parce qu'il paraît que il y avait une guerre civile terrible en Finlande au début du XXe siècle, au moment de la Première Guerre mondiale. Et il y avait des gens massacrés, terribles, etc. Donc, bon. C'est des Finlandais qui ont organisé ça pour essayer de amener faire la paix entre ces deux côtés. Bref, les plongeons. Donc, on se mettait dans les situations où il y a une division profonde et beaucoup d'idées reçues et d'opinions, etc., pour essayer de voir ce qu'on partage là. ce qui est l'unité. Donc, à Auschwitz, par exemple, c'était de, mon expérience était de voir que j'avais aussi en moi l'exécutionneur. Non. Non. Qu'est-ce que c'est, la deuxième personne? Le bourreau. J'avais aussi en moi le bourreau. J'avais la victime, mais j'avais aussi le bourreau. De voir que la souffrance, que si on souffre, c'est là où on va faire mal à quelqu'un d'autre. On va engendrer la souffrance quand on souffre. Et on souffre parce qu'on est dans cette fixation de séparation et de division plutôt que de l'unité. Bon, je rends ça très sommaire, mais c'est une expérience vécue, ce que je vous raconte. Alors, tout le travail de Bernie était autour de ça. Il avait toujours cherché à élargir et inclure plutôt que de réduire et exclure. Il avait créé à New York, dans un quartier très défavorisé, une boulangerie pour employer des gens dans un quartier qui était au chômage et pour loger les sans-abri qui pouvaient travailler dans la boulangerie mais qui n'avaient pas de logement. Il a créé des logements pour les femmes célibataires qui ne pouvaient pas travailler parce qu'elles avaient leurs enfants et ils n'avaient pas un endroit pour vivre. Il leur donnait un boulot, il leur donnait un logement et il créait une crèche pour tous les gens qui avaient le sida. Pas uniquement les drogués, mais il y avait beaucoup de ça. Il a créé un hôpital pour les soigner. Il a créé cette énorme infrastructure pour inclure ces gens, plutôt que de les exclure et de leur donner le moyen de s'aider eux-mêmes et d'inclure encore plus eux-mêmes. Plutôt que de juste rester dans une salle de méditation et méditer avec des gens de la bourgeoisie new-yorkaise qui, à l'origine, c'était ça, son groupe, sa communauté. Mais c'était très exclusif. Et il disait, mais à quoi bon? À quoi bon? Et donc, si on s'assoit et le lac devient tranquille, on voit les choses telles qu'elles sont et on voit qu'il y a des choses à faire. On voit. Et ça peut être juste dans notre famille. Ça n'a pas besoin d'être un truc énorme comme Bernie fait. Hein. C'est un entrepreneur, donc pour lui, c'était son chemin. Mais on peut chacun utiliser... se servir de nos ingrédients, comme lui il disait, les ingrédients qu'on a ici, et les mettre, s'en servir là où on est, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas le faire ailleurs que de là où on est. Voilà.